Que pense-t-il, lui, de ces panels citoyens ?
Je pense que l'idée a pleinement du sens si on considère, ce qui me paraît juste, que on a sur un certain nombre de dossiers des blocages permanents, un retard en quelque sorte de la décision politique par rapport à l'évolution des mentalités de la société civile, des valeurs et des pratiques des citoyens, parce que dans un système parlementaire qui est dominé par des partis, qui eux-mêmes sont nés sur des combats historiques fondateurs et qui ont donc toujours, même s'ils ont beaucoup évolué, une fidélité à certaines priorités, ils ont des tabous, ils ont des ennemis privilégiés, ils ont un électorat de base qu'ils ne veulent absolument pas risquer de perdre. Dans un certain nombre de dossiers, donc, ce jeu politique dominé par ces partis crée une incapacité à prendre des décisions ou à évoluer parce qu'on a peur. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est tout à fait intéressant comme manière de faire, sachant qu'il y a une autre manière de faire qui serait plutôt la pratique référendaire. Ce qui me frappe, c'est que souvent, si on met de côté donc, ce qui est plutôt de l'ordre de la gestion d'un territoire, de questions pratiques de vie quotidienne, on évoque le tirage au sort pour régler des questions très sensibles, où il y a des conflits de principes, de valeurs, on touche à l'éthique, à la religion, à la question des droits de certaines minorités, autorisées au pas de mariage pour les personnes de même sexe, etc. C'est souvent sur ces questions qui peuvent être très clivantes et très sensibles qu'on propose de créer un parlement non élu. C'est là, en effet, qu'on peut voir les partis s'embourber dans des fidélités au passé qui les empêchent d'avancer. Et je pense que ça peut être une respiration, une manière d'avancer tout à fait positive.
Et d'ailleurs, Vincent de Corbitaire donne un exemple bien précis.
Un parlement de citoyens n'aurait jamais réglé, comme on l'a réglé au début de cette législature, la question de la place à donner aux cours dits philosophiques dans l'école publique. On avait par tradition, et sur la base d'une règle qui est celle du pacte scolaire, 2 heures de religion des différents cultes reconnus ou de morale. Certains partis voulaient les supprimer, les rendre facultatives, les remplacer par un cours de citoyenneté. D'autres voulaient les maintenir. Résultat, on maintient 1 heure sur 2 et on crée un cours de citoyenneté, philosophie et citoyenneté pour l'autre heure. Et tout le monde est d'accord pour dire que ça pose des problèmes monstrueux d'organisation sur le terrain, que ça ne fonctionne pas pédagogiquement et qu'il faut changer. Un parlement de citoyens n'aurait jamais imaginé ce donnant-donnant ou ce compromis typiquement belge, 2 heures, 0, 2 divisé par 2, ça fait 1 et on va voir. On aurait gagné du temps, à mon avis. Et sur d'autres questions, ça pourrait fonctionner, moyennant une foule de précautions sur la représentativité du panel, sur en effet le choix des experts, sur la durée laissée à la délibération. Donc ça peut être tout à fait positif dans certains domaines. Ça pourrait d'ailleurs montrer aux partis que leur propre électorat est beaucoup plus complexe et nuancé qu'ils ne le croient et qu'ils peuvent être eux-mêmes peut-être un peu plus audacieux et que ça ne sert à rien de se crisper sur des héritages. Donc je pense que ça peut être tout à fait positif. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ces parlements sont les décideurs ? Et c'est une vraie question de fond.
Eh bien oui. Question de fond et une question centrale même. Parce que dans le cas irlandais, le processus est au final sanctionné par un référendum. Alors est-ce que c'est comme cela et seulement comme cela que ces panels peuvent s'inscrire dans nos démocraties ? Pour David Van Reybroek, on pourrait aller encore plus loin. Il voit d'ailleurs dans le modus operandi choisi par l'Irlande une sorte de phase transitoire.
Je comprends avec une nouveauté comme ce tirage au sort irlandais. C'était la première fois au niveau national qu'ils disaient « mais c'est quoi justement ? On va mettre quelques serrures sur ce modèle. Donc il faut que ça passe par le Parlement. Et si le Parlement a donné son aval, il faut que ça passe encore devant un référendum. » Je comprends, mais en quelque sorte c'est malheureux. Parce que là, on a une opinion informée, un jugement informé des citoyens qui ont eu la chance de se documenter. Et on va encore passer par la particratie et on va encore passer par le référendum. Idéalement, je pense, dans le futur, on n'aurait pas besoin de ces deux étapes ultérieures.
Alors, imaginable ça pour le philosophe Vincent de Corbitaire ? Selon lui, il y a 2 écueils, 2 aspects qui pourraient être difficiles à avaler pour la population.
Il faudra accepter le pari de la représentativité, ce qui ne va pas de soi. Parce que souvent, ces parlements, jusqu'ici, ont proposé des solutions plus progressistes que ce qu'on a pu vérifier après coup dans des enquêtes d'opinion ou dans des référendums. parce que le temps de la délibération qu'on donne à ces parlements fait que les gens évoluent en termes de conception au cours du débat. Là où, quand on demande à ratifier par un référendum ou qu'on vérifie par sondage, le citoyen ordinaire, lui, n'a pas eu toute cette information, ce temps de réflexion, et peut rester en retrait. Et donc, il faut accepter qu'il y ait éventuellement un décalage entre ce qui serait décidé par ces parlements et ce qui serait la décision de la population elle-même.
Et le philosophe de l'ULB pointe une deuxième difficulté, plus subtile, mais peut-être plus profonde.
Nos démocraties représentatives sont fondées sur l'idée que le peuple est souverain pour choisir ses dirigeants, mais qu'il est donc censé choisir les meilleurs, choisir ceux qui vont lui correspondre idéologiquement, mais aussi idéalement choisir ceux qui ont l'air d'avoir un peu plus d'expérience, de sagesse, de connaissances, de capacité à décider, etc., etc. La difficulté pour le citoyen, c'est de se dire, il doit y avoir dans ce Parlement, si le représentatif, des personnes aussi peu informées que moi, aussi indifférente à la politique que moi, aussi stupidement en colère que je ne le suis parce que j'en ai tellement marre de tout ce cirque que je ne m'intéresse plus à rien et j'avoue que je vote un peu n'importe comment et ça m'est tout à fait égal. Est-ce que nous allons faire confiance au fait d'être représentés, parce qu'on sera bien représentés par n'importe qui, au sens positif, il n'y a aucun verrou à l'entrée, et au sens négatif, c'est n'importe qui, y compris des personnes avec un système de valeurs douteux, avec une incompétence crasse, avec un niveau de culture assez bas, qui n'ont pas envie de jouer le jeu du débat, etc., etc. C'est là que pourrait être la vraie inquiétude. Alors on va répondre, oui, mais on ne prendra que des volontaires. Donc des personnes qui étant volontaires ont quand même un certain intérêt pour la chose publique. Et on va tout de suite voir naître une inquiétude inverse. Oui, mais s'ils sont volontaires, c'est qu'ils sont politisés. Et donc, ils ne sont peut-être pas représentatifs, ce sont peut-être des militants qui ne vont pas être complètement en phase avec moi, qui suis plutôt un citoyen ordinaire, qui s'intéresse un peu, mais pas plus. Il y a là une foule de questions nouvelles auxquelles il faudrait répondre.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la réflexion avance, souvent dans de plus petites entités, des communes, des villes, qui décident aujourd'hui de se doter d'assemblées citoyennes.
La ville de Madrid est en train de créer un observatoire citoyen tiré au sort permanent. La ville de Toronto, la ville de Gdansk en Pologne, plus proche de chez nous, à Groningen, aux Pays-Bas, Utrecht et Rotterdam, ces villes-là commencent à fonctionner avec un tirage au sort permanent, une loterie permanente. Ça veut dire qu'ils vont tirer au sort un certain nombre de gens. À Groningen, c'est 11 personnes. Il s'agit d'un district, d'un parti, un quartier de Groningen. C'est le quartier le plus difficile. Et là, 11 personnes vont pendant une année assumer un certain nombre de fonctions publiques, on va dire. Et je pense qu'on va de plus en plus évoluer. J'espère qu'on va de plus en plus évoluer vers un système où, à côté d'un parlement ou une assemblée votée, élue, on va avoir une deuxième assemblée qui va être tirée au sort.
Et ces idées dépassent la simple sphère citoyenne. Les politiques s'en saisissent de plus en plus.
J'ai fait tirer au sort sur la liste électorale 30 honorables citoyens qui eux-mêmes ont contrôlé le bon respect de l'engagement.
Jamais dans l'histoire de notre pays, des citoyens non élus ne s'étaient vus investis d'une si grande responsabilité.
La volonté de mon groupe est que ce type de projet permette d'aller chercher la voix de ceux qu'on entend peu ou pas.
Une commission choisie par tirage au sort de concitoyens, cela me semble une forme d'hygiène démocratique.
Parmi les différents grands témoins que nous avons rencontrés pour cette série, David Van Reybrouck n'est pas le seul à estimer qu'il faut réinventer le système démocratique lui-même.
Nous sommes dans une époque où tous les aspects de la vie, depuis la vie la plus intime, la manière dont nous vivons notre vie personnelle avec notre petit téléphone portable.
Benoît Friedman, philosophe du droit.
Jusqu'aux aspects géopolitiques, économiques, etc., est transformé par de la technologie, notamment par les médias. Or, la démocratie, le gouvernement, c'est une question de communication. Donc, le fait de dire, voilà, tout notre monde est transformé, mais la démocratie, comme c'est quelque chose à quoi nous sommes attachés, ben, il ne faut pas du tout en réviser les procédures, semble complètement absurde. Il faut songer à la tuyauterie. C'est de toute première importance Et il faut que les politiques, les juristes, mais aussi avec des ingénieurs, et aussi, enfin, et avec les citoyens, et avec les sociologues, etc., repensent à ça. C'est un énorme défi.
Cette analyse, on la retrouve également chez la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury.
C'est évident qu'il faut réinventer les outils. C'est évident, si vous voulez, que la démocratie, elle fonctionne avec des principes qui sont issus en grande partie du XVIIIe siècle, des Lumières, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe. Et ces principes, ils sont absolument nécessaires et vitalistes. Mais après, ils renvoient, bien sûr, à une réactualisation des outils qui font face à des enjeux qui n'existaient absolument pas, ni au XVIIIe, ni au XIXe, ni au début du XXe. Et aujourd'hui, on a cette question du big data, on a ces enjeux de la transition écologique, on a ces enjeux de la question migratoire, on a ces enjeux de... comment on se protège et comment on protège les démocraties d'un risque terroriste commun. Donc tout ça fait qu'il faut voir comment on invente. Moi j'ai parlé d'une citoyenneté capacitaire, mais une fois qu'on a parlé d'une citoyenneté capacitaire, c'est-à-dire en gros une citoyenneté qui pèse réellement sur les transformations d'un état de droit, ben, c'est la question de la formation de cette citoyenneté capacitaire.
D'une citoyenneté capacitaire, donner aux citoyens les armes nécessaires pour défendre l'état de droit, pour exercer pleinement son pouvoir de citoyen. Tous nos grands témoins insistent sur le rôle central de l'école, pilier de la démocratie.
La démocratie a besoin d'une école démocratique.
Il faut, dans un certain sens et à une certaine mesure, réinventer l'école et réinventer l'université.
Si l'école est indispensable au fonctionnement d'une authentique démocratie, c'est parce qu'elle doit donner à chaque citoyen, outre des clés pour mener une vie professionnelle et s'insérer dans la société, des clés, des capacités cognitives, intellectuelles, de réflexion et des connaissances pour devenir un citoyen actif, bien informé, qui vote en connaissance de cause, qui peut s'impliquer, etc., etc.
C'est l'éducation qui encourage les motivations positives, décourage ou réprime même les motivations négatives.
Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Peut-être la chose la plus importante et la leçon la plus importante à retenir de cette affaire Cambridge Analytica, c'est l'éducation aux médias. Être critique par rapport aux médias, voir comment ils se fabriquent, apprendre aux enfants à fabriquer du média, à documenter leur vie par eux-mêmes plutôt que de la consommer, de consommer leur vie documentée par des algorithmes.
Une école qui éveille à la complexité des enjeux. Une école qui aiguise le sens critique quand la notion même de vérité est aujourd'hui remise en cause dans l'espace médiatique. Une école acteur d'intégration. Une école qui développe la culture algorithmique. Une école qui ouvre aux réflexions éthiques. Tiens, l'école. Ce serait un bon thème, ça, non? Pour une série en 8 épisodes.